Bonjour Hervé Gardette. Le ciel ne l'indique pas, mais c'est le premier jour de l'été et avec lui la fête de la musique que nous allons accompagner durant 3 jours. Aujourd'hui et demain, le jazz sera notre invité avec une proposition d'Élise Gruau. Comme elle nous l'a écrit, il existe peu de formes d'art dont une histoire presque complète soit accessible à travers un fonds d'archives radiophoniques. C'est le cas du jazz, dont la période d'effervescence créatrice la plus intense est documentée grâce aux enregistrements réalisés par Radio France. Plus de 9000 concerts proposés à travers 50 ans d'émissions. Seulement après, ces heures de musique entrent dans un long sommeil que seules de rares piqûres de rappel ont interrompu.
Il faut dire qu'au début de ces enregistrements, les supports étaient fragiles.
Oui, Hervé, sans la passion d'une documentaliste comme Annie Lozana et le travail patient de restaurateurs comme Jean-François Pontefract ou Jonathan Fitoussi, ce diptyque documentaire aurait été impossible.
Nous avons malheureusement un départ à vous signaler, celui de Royal Ridge. Royal Ridge est presque parti, sa trompette n'est même plus avec lui. Où est votre trompette?
La trompette, c'est avec le bagage.
Dans les bagages, déjà?
Oui, dans les bagages.
C'est tellement embarrassant.
Oui.
Vous voyagez sans trompette, alors?
Pas la trompette, peut-être. Oui. Je chantais un petit peu.
Ah oui, c'est ça. Vous êtes en France depuis combien de temps?
Je suis resté ici 10 mois.
10 mois?
10 mois.
Et pourquoi partez-vous?
C'est une interview de Royal Ridge,
donc
qui est venu à la radio.
Vous pensez revenir bientôt?
Peut-être je reviens.
Voilà, donc là on est en 51. C'est Pierre Dumayet qui l'interviewe en studio.
Et on m'a dit que pendant votre séjour en France, vous aviez composé des chansons en français, c'est exact?
C'est exact.
Par exemple?
Par exemple, un petit laitue,
oui,
des tomates avec la mayonnaise.
Ah.
Comment s'appelait cette chanson?
D'après ce qu'il dit, une petite laitue, des tomates avec de la mayonnaise.
Vous voulez nous la chanter?
Si vous voulez.
Hein? Ah, avec plaisir.
Oui.
Sa petite chanson qui est devenue un tube après.
Qu'est-ce que t'as? Ah! Qu'est-ce que t'as peur? Qu'est-ce que t'as dit? C'est mon désir.
Là, par exemple, je ne sais pas qui joue au piano. Est-ce que c'est lui? Est-ce que c'est quelqu'un d'autre? Je n'en sais rien.
Ça, c'est mon plat.
C'est la première fois qu'il a chanté. C'était à la radio. Il l'a chanté après en Antibes.
Vous aimez la mayonnaise?
Oh, j'aime la mayonnaise.
C'est vraiment un Américain à Paris?
Oui.
Toujours la même histoire, c'est la même folie. Un petit laitue, des tomates avec de la mayonnaise. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu penses?
Le jazz, une aventure radiophonique.
Qu'est-ce que tu bois?
Élise Gruau, Claire Levasseur,
Cognac, Cognac,
Christine Robert et Jean-Pierre Pernel.
A little lettuce, tomatoes with mayonnaise.
Première partie, les pionniers des années 40. Le jazz était arrivé en France dès la Première Guerre mondiale, mais c'est à la Libération qu'il a connu un essor considérable, faisant de Paris une des capitales mondiales du jazz. À la même époque, les progrès techniques permettaient à la radio, animée par des producteurs passionnés, de déployer des moyens nouveaux pour aller enregistrer des concerts et diffuser dans les foyers ses nouvelles créations musicales. Ainsi, la radio a-t-elle joué un rôle fondamental pour créer un public d'amateurs, promouvoir les jeunes musiciens français et faire connaître les grandes stars de cette musique. Ces milliers d'heures de jazz sommeillaient dans les archives de la radio. Grâce au carnet des producteurs comme André Francis, Annie Lozana, documentaliste à l'Institut National de l'Audiovisuel, a été la première à entamer un véritable travail d'archéologue, pour exhumer, identifier et faire restaurer ses œuvres qui constituent un témoignage unique sur un art propre au XXe siècle.
Je suis arrivée à la radio Alina Archives Sonores en 96. Très très vite, en sondant la base comme ça, je me suis rendu compte qu'il y avait un fond de jazz qui était énorme, absolument pas exploité. Et donc j'ai décidé de sortir un petit peu quelques documents de jazz pour savoir ce que ça contenait. Et puis petit à petit, en faire des copies numérisées. C'était le début de la numérisation. Et j'ai commencé par le Festival d'Antibes, parce qu'en fait, on avait récupéré auprès d'André Francis des classeurs avec des fiches qui décrivaient ce que les concerts d'Antibes contenaient. C'est-à-dire les formations qui étaient passées, les thèmes qui jouaient, etc. Donc j'ai commencé en fait à décrire ce fond avec ces classeurs, parce que j'avais vraiment rien d'autre pour l'exploiter. Au départ, on a récupéré les fiches de Radio France, les fiches soit manuelles, soit dactylographiées, et je me suis rendu compte que le fond était beaucoup plus riche que le simple, enfin, si je puis dire, le simple Festival d'Antibes. C'est-à-dire que j'avais des fiches qui remontaient à peu près dans les années 46-48. Ces notices m'indiquaient que ce fond était sur des disques 78 tours, puisque la bande magnétique est arrivée... on va dire plutôt vers 53-55. Et puis, quand j'avais de la chance, il y avait une phrase dans le résumé et un générique qui pouvait indiquer le producteur et puis rarement un interprète. Donc, comme c'était vraiment pas très détaillé, il fallait que je sorte tous les matériels, un par un, qu'on les écoute avec les techniciens et qu'on les restaure et qu'on les numérise. Ça a été quand même un gros boulot d'écoute. Hein. Un gros boulot d'écoute parce qu'il n'y avait pas d'annonce. Il faut reconnaître les thèmes qui sont chantés et joués à l'oreille. Moi, j'en connais pas mal, des fois en galère. Parce que moi, quand j'ai commencé à faire le traitement documentaire jazz à l'INA, il n'y avait rien, il n'y avait pas Internet. Donc ça faisait beaucoup à l'oreille. J'amenais mes disques personnels pour essayer de retrouver les morceaux. Je faisais appel... à des gens que je connaissais, pour savoir s'ils reconnaissaient les morceaux, je leur faisais écouter au téléphone. J'appelais même certains producteurs de France Musique qui travaillaient dans le jazz. Je les appelais chez eux en leur demandant s'ils avaient le Hyrule Book de me jouer au piano pour savoir si c'était tel thème. Mon compagnon aussi. Enfin bon, dans ces cas-là, il fallait faire appel à tout ce que je pouvais pour retrouver les thèmes, pour pouvoir les décrire, etc., être sûr que c'était ces thèmes joués. Il fallait vraiment qu'on essaye de recoller les morceaux, de retrouver ce qu'on pouvait. Et d'ailleurs, il y a des choses que j'ai pas pu décrire. Hein. Il y a des notices sur lesquelles je mets ta main connue. J'ai pas pu les reconnaître. Et j'ai quand même passé 10 ans à galérer, oui. ça fait des sommes tous les jours. Mais j'estime que sur la période jusqu'en 1960, j'ai quasiment tout fait de ce qui est important. C'est-à-dire les reportages dans tous les clubs de jazz de Paris qui n'existent plus aujourd'hui, malheureusement, toutes ces caps de jazz et tous ces clubs. Et puis, tout ce que j'ai pu trouver de reportages et d'interviews de musiciens comme Mesmerot, tous les reportages qu'il y avait quand Sidney Bechet jouait avec Claude Luther, etc. Et puis, toutes les premières émissions de ces producteurs qui se sont battus pour le jazz à la radio comme André Francis, tous ces premiers reportages et toutes ces premières émissions avec toutes les formations amateurs, les premiers concours, les premiers festivals, le festival de Nice en 48, etc. Et puis le reste, il y en a encore qui sont à numériser et à restaurer parce que j'ai pas pu tout faire.
Et là, Annie, vous venez de sélectionner une notice. À quoi est-ce qu'elle correspond alors ?
L'arrivée de Duke Ellington à la gare du Nord. Il est vraiment interviewé à la sortie du train. Ça a été diffusé le 19 juillet 48 et enregistré le 13 juillet 48. Alors, je prends n'importe où hein, dans le document.
Well, I've met some musicians.
Disque 78 tours, restauré.
Il y a Claude Bollin avec lui. Ils sont quelques musiciens à la gare.
Alors Duke nous dit maintenant qu'il a entendu seulement l'excellent petit orchestre qui est venu lui l'attendre et qui a joué à son arrivée. Et il dit aussi avec son humour toujours habituel qu'il craint la compétition. Il nous dit que, en venant dans le train, il a justement composé un nouvel air. Nous allons lui en demander quelques caractéristiques. What kind of tune is it?
It's not good French, see, but I use the French title. I use Bleu, Mon Bleu.
C'est extraordinaire d'entendre ça.
Bleu, Mon Bleu.
Il faut quand même bien se remettre dans l'époque, c'est qu'en France, les musiciens américains étaient accueillis comme vraiment comme des dieux, quoi.
Il a donc cette nouvelle air qu'il a composée, s'appelle Bleu, Mon Bleu.
Il n'y avait pas cette histoire raciste vis-à-vis de ce peuple. Et par rapport à ce qu'ils vivaient aux États-Unis, ils étaient toujours contents de venir en France. Et c'est vrai que tous ces producteurs ont fait connaître le jazz aux auditeurs français. Il y avait cette émulation à Saint-Germain-des-Prés et on les a accueillis parce que cette musique était nouvelle. Beaucoup de jeunes à l'époque se sont intéressés à cette musique et donc ils étaient toujours ravis de venir à Paris, qui est devenu quand même le berceau du jazz en Europe.
Je vais à tout ce qu'elle dit dans un anglais parfait, mais c'est très gentil, c'est que c'est merveilleux et qu'elle aime beaucoup Paris.
Eh bien, nous sommes maintenant pressés par une foule immense qui est venue pour demander des autographes à Duke Ellington, qui commence d'ailleurs à les donner. Et je vais demander à Claude Bolling de bien vouloir nous jouer maintenant encore un petit air, de façon à terminer en beauté notre reportage. Allez-y, mon vieux.
Inutile de vous dire que ce sont des disques qui ont été restaurés. Hein. C'est-à-dire, il n'y a aucun craquement, etc. Si on écoutait les disques originaux, la qualité ne serait pas la même, hein, bien sûr.
Ici Marie Whiteside qui vous parle de l'aéroport international d'Idlewild, près de New York. Nous sommes venus, micro en main, assister à une manifestation d'amitié franco-américaine à la fois unique et assez touchante. Cette manifestation intéresse particulièrement les amateurs de jazz en France et aux États-Unis. En effet, un avion Air France venant de Paris vient de se poser sur le terrain d'atterrissage à quelques 100 mètres d'où nous vous parlons et il avait à son bord la plus grande autorité mondiale du jazz hôte, M. Hugues Panassier.
Enregistré le 26 février 1949, disque 78 tours, restauré.
M. Panassier est en ce moment à la douane. Nous l'attendons à la sortie, entouré d'une foule de curieux attirés par un spectacle pour le moins inusité qui sera pour Hugues Panassier une grande, une très agréable surprise. En effet, un groupe de musiciens et d'admirateurs est venu accueillir Hugues Panassier à sa descente d'avion. Les musiciens ont apporté leurs instruments pour lui jouer une sérénade dès qu'il apparaîtra. J'ajoute que ces musiciens sont parmi les meilleurs et les plus célèbres du monde et que Panassier leur a souvent rendu hommage dans ses livres. Eh bien, pendant que nous attendons l'arrivée de M. Panassier, je vous propose de faire la connaissance des musiciens qui sont venus l'attendre. Est-ce qu'il y a un parmi vous qui parle le français?
Tu peux.
C'est M. Béchet qui vient au microphone. M. Béchet est le leader bien connu qui joue aussi du saxophone. M. Béchet, voulez-vous nous présenter vos collègues?
Avec plaisir. Je vous présente M. Mesro.
Enchanté, Monsieur Mesro.
Enchanté, madame.
Monsieur Mesro est déjà très connu du public français puisqu'il a participé au Festival de Nice l'année dernière,
oui.
N'est-ce pas?
Oui.
Et je crois que vous avez fait une tournée en France.
Oui.
Où avez-vous joué en France?
Toulouse.
À Toulouse.
Oui. Montpellier.
Béziers.
Marseille. Nancy. Lille. Orléans, Lyon,
Paris.
Et Paris.
Oui.
Je pense que tous nos auditeurs qui ont entendu M. Mezzo et son orchestre, parce que vous étiez accompagné par votre orchestre, n'est-ce pas?
Oui, oui.
Se souviendront très bien de lui. Et oui. Vous connaissez M. Panassier personnellement?
Oui, oui.
Oui. Il a d'ailleurs beaucoup parlé de vous et de vous tous.
Tout le monde.
Merci, messieurs.
Et qui sont ces grands producteurs de la radio qui ont promu le jazz, comme ça, dès la Libération?
Il y a eu Panassier, qui allait très très régulièrement aux États-Unis, qui connaissait énormément de musiciens américains. C'est lui d'ailleurs qui avait accueilli Billie Holiday. Il y a Charles Delaunay, qui avait monté la revue du Hot Club de France. André Francis, qui lui est arrivé à la radio par le studio d'essai, puis le club d'essai. Voilà, tous ces producteurs qui étaient tout en là, sur le vif, qui défendaient tous ces gens et qui allaient les interviewer, qui allaient graver des disques, qui allaient dans les caves, etc.
Le grand moment approche. On nous dit que Panassier vient de passer la douane. Vous savez qu'il ne sait pas du tout que ces musiciens l'attendent. Les musiciens se préparent. À propos, ils vont lui jouer un air bien de circonstance qui s'appelle « Les blues parisiens ». Ah, le signal. Le voilà. Voilà Hugues Panassier.
C'est vraiment charmant. De si merveilleux musiciens parmi nos favoris qui sont venus là pour jouer.
Il y a d'ailleurs une foule de curieux qui sont assemblés. Ils sont certainement pas habitués à une pareille sérénade. Quelles sont vos impressions de voyage, M. Panassier?
Je suis bien content d'être arrivé enfin. Puis il y avait des années que je voulais revenir ici.
Oui.
Je suis venu en 39, juste avant la guerre. Je devais revenir chaque année. Il y avait toujours quelque chose qui m'en empêchait. Et de plus en plus, l'envie était grande chez moi. Et enfin, j'y suis.
Et quel est le but de votre voyage cette fois-ci?
Oh ben c'est surtout d'entendre de nouveau les musiciens sur place, parce qu'en France, malgré tout, il n'y a que les disques. Il en vient quelquefois, mais c'est très rare. Ici, ils sont tous là, les musiciens dont je m'occupe, les grands musiciens de jazz. Et je peux les entendre, les étudier, en plus revoir tous mes amis, puisque j'ai tant d'amis ici.
Ah oui, qu'ils vous ont trouvé d'ailleurs, qui vous attendent avec impatience. Et vous allez faire des enregistrements, je crois.
Oui.
Est-ce que vous allez en rapporter en France?
J'en ferai, écoutez, si j'en ai l'occasion, certainement, mais ce sont des choses, on ne sait jamais.
Oui.
Quelquefois, on fait des projets, ils ne peuvent pas se réaliser.
J'espère que les vôtres se réaliseront.
Justement, je vais entendre de tas de choses et je me ferai une idée plus approfondie.
Oui, eh bien, je vous souhaite un excellent séjour, monsieur Panassier. Je vous remercie infiniment venu à ce micro.
Merci.
Au revoir, monsieur.
Au revoir.
Ici Marie Whiteside qui vous parle de New York.
Et vous, André Francis, comment avez-vous découvert le jazz? Comment êtes-vous venu au jazz?
C'était pendant l'occupation. Avec des amis, j'ai eu une camarade dont la mère était collectionneur de disques de jazz avant-guerre et qui a amené chez moi des disques de Louis Armstrong et de Duke Ellington, chose que je n'avais pas jamais entendue, qui n'était pas diffusée sur la seule chaîne de radio que je pouvais capter sur mon poste de radio qui était extrêmement limité. Elle m'a fait entendre donc Louis Armstrong et Duke Ellington, ça a été une révélation absolue, et j'ai voulu posséder du jazz. Ce qui était, et je comprends pas comment ça a pu fonctionner, mais ça fonctionnait quand même, en pleine occupation à Paris, un magasin qui était sur les Champs-Élysées vendait des disques importés de Suisse et qui étaient des productions de jazz américain du plus haut niveau. Et j'ai pu m'acheter ainsi mon premier disque de jazz américain à Symphonia, aux Champs-Élysées, vers 1942-1943. Puis il y avait quand même, ne l'oublions pas, les disques swing qui ont continué à paraître en France, qui étaient quand même peu nombreux parce que la production, étant donné qu'il y avait peu de matériel pour presser des disques, était rare, mais je voulais m'acheter une chanson à succès qui était jouée parce qu'il y avait à l'époque comme musique de variété qui intéressait les jeunes, c'était l'orchestre de Raymond Legrand, le père de Michel Legrand, qui avait une formation qui faisait des chansons sketch, et une de ces chansons sketch un peu ridicules comme je le juge aujourd'hui, mais pas quand j'avais 16 ou 17 ans, ça s'appelait « Elle n'a pas très bon caractère ». Eh bien, elle n'avait pas de bon caractère, elle n'avait pas à se vendre, ou tout au moins ça se vendait tellement que j'ai pas pu acheter le disque que je souhaitais. Mais le vendeur de disques à qui je me suis adressé m'a dit « Mais j'ai le même morceau si vous voulez, mais c'est joué par un musicien de jazz ». Bon, je voulais absolument cette chanson, ce qui fait qu'elle n'a pas très bon caractère. Ça a été pour moi, il y a un bon rythme, c'est du swing et ça m'a plu. C'est le début. Un disque coûtait 27,50 francs, c'était exactement ce que je gagnais par soirée. Je m'achetais un disque tous les trois semaines. Un disque 25 cm et qui ne durait que 3 minutes par face. Bon, mais j'en ai acheté beaucoup. À la fin de l'occupation, je devais en avoir au moins une soixantaine, ce qui était énorme à l'époque.
Il y avait pas mal de postes de diffusion en province et à Paris. C'est-à-dire que déjà, entre la Première et la Deuxième Guerre mondiale, il y a eu des enregistrements gravés sur disque, plein d'interviews d'artistes. Et ensuite, il y a eu la Deuxième Guerre mondiale. Donc Pétain a fermé tous les postes de radio français, de Paris et de province. Il n'y avait plus que Radio Vichy et Radio Paris. Et c'est... sur la chaîne Radio Paris, qui était gérée par les Allemands, que le studio d'essai a vu le jour. Avec des gens comme Jean Tardieu, puis ensuite Pierre Schaeffer. Et puis, malgré cette contrainte de la guerre, ces gens-là ont fait des choses vraiment très très libres et extraordinaires, avec énormément de création. Et en fait, ils ont repris l'idée du ministre des PTT, Jardiliez, qui a fait un discours en 1936 sur les ondes, disant qu'il voulait absolument que la radio amène l'éducation et la culture chez les Français. Peu de gens allaient à l'opéra, peu de gens allaient au théâtre, etc. Donc, il voulait que vraiment la radio ait cette mission culturelle pour éduquer les gens, c'est vraiment l'éducation populaire. Après Pétain, malgré tout, avec Radio Paris, il y a eu ce studio d'essai, qui est ensuite devenu le club d'essai. Et il y a des gens comme Micheline Dax, qui a commencé pendant la Deuxième Guerre mondiale avec Jean Tardieu. Et puis, quelqu'un comme André Francis, qui était tout jeune, et à qui on a fait confiance, et à qui on a donné le jazz.
Le club d'essai de la radiodiffusion française vous présente « Jeunesse du jazz », une production d'André Francis consacrée aujourd'hui à la retransmission de la deuxième partie de la seconde jam session publique.
À la Libération, on avait deux chaînes de radio, une sur grandes ondes, une sur ondes moyennes, qui devait répondre à toutes les sollicitations. C'était la radio nationale, il n'y avait pas encore de radio privée, et elle diffusait des informations générales, la culture. Ce qui passait en dernier, c'était le divertissement, et la musique de jazz était... Même la musique classique était peu présente, ou en tout cas, si elle était présente, elle était bien avant le jazz. Et pour le découvrir un peu mieux, je n'ai pu que courir des disquaires qui, le dimanche matin, faisaient des présentations hors vente commerciale, courir chez des collectionneurs qui présentaient leurs enregistrements une fois par semaine. Je me souviens être allé très souvent dans le 17e arrondissement, où un très riche collectionneur présentait les disques qu'il possédait principalement dans le domaine du classique, mais c'est là où je me suis formé. J'allais le mercredi soir chez celui-ci, j'allais le jeudi soir peut-être, quand j'avais des possibilités, au concert de musique classique au Théâtre des Champs-Élysées. Le vendredi soir, j'allais au Hot Club de Paris où il y avait des présentations de jazz. On n'avait pas encore ouvert les clubs, ça n'est venu que vers la fin des années 40 et je ne les ai découverts que petit à petit, très lentement.
Le Club d'essai, 1949. Support, 78 tours. Restauré.
Le Club d'essai de la radiodiffusion française vous présente Jeunesse du Jazz, une production d'André Francis, consacrée aujourd'hui à la retransmission de la Nuit du Jazz du Hot Club de France, donnée le 3 février dans les salons de la mairie du 5e. Pour débuter...
Et comment, André Francis, vous en êtes venu à proposer du jazz à la radio ?
J'ai pas proposé du jazz, j'ai proposé à la radio de faire des émissions de poétique. Et une des premières émissions que j'ai eu à présenter, à produire et tout, était consacrée au poète noir français Aimé Césaire. Et pour illustrer, donner une dimension poético-sonore à ces beaux textes, j'avais choisi certains enregistrements du style jungle de Duke Ellington. Et cela a frappé, heureusement, tant mieux, les responsables du Club d'essai qui était le producteur général de cette série d'émissions. Et ils m'ont demandé si je connaissais le jazz. J'ai menti. J'ai dit que je le connaissais, alors que j'avais quelques connaissances. Mais quoi qu'il en soit, c'est ce qu'il fallait faire. On m'a fait confiance. Et très rapidement, Jean Tardieu et François Billenou, qui étaient les responsables de la programmation du Club d'essai, m'ont demandé de faire par mois 4 émissions. 2 qui étaient consacrées à des enregistrements de concerts ou de concerts que l'on organisait au Club d'essai rue de l'Université, ou de faire, beaucoup mieux, une tribune des critiques de jazz. D'une part, Charles Delaunay, c'était Boris Vian, c'était André Oder et c'était Franck Thénault. Donc le Club d'essai, c'était une chaîne qui diffusait 2 ou 3 fois par semaine sur la chaîne parisienne. On était en déviation d'émission le soir de 20h à 23h.
Enregistré le mardi 6 décembre 1949.
Et voici Jeunesse du Jazz, une émission du Club d'essai de la radiodiffusion française, produite et présentée par André Francis.
Support, 78 tours.
Eh bien, aujourd'hui, chers auditeurs et amis, nous allons vous retransmettre un concert enregistré le 6 décembre dernier à l'École normale de musique, concert au cours duquel le célèbre pianiste new-yorkais Willie Smith Le Lion s'est produit. Ce pianiste, vous ne l'ignorez pas, est un des plus grands interprètes de la musique de jazz aux côtés de Fats Waller, d'Airlines, de James P. Johnson et d'Art Tatum. Ses interprétations de Passionette, de Morning Air, de Rippling Waters sont dans la mémoire de tous les jazz fans. Et pour débuter, c'est une de ses compositions que Le Lion interprète. Il s'agit de Echoes of Spring.
En tout cas, c'est tout à fait émouvant pour moi de retrouver ma petite voix de roquet.
Willie the Lion Smith.
C'est un concert
du Club d'essai sous le patronage du Hot Club de France en 49. Un sublime concert qu'on a mis sur notre site ina.fr, qui est un concert de Willie the Lion Smith, qui a joué à l'École normale de musique de Paris, à la salle Cortot. Sur la pochette, il y avait marqué Willie Smith. Et moi, je me suis dit que ça pouvait être Willie the Lion, qui est quand même un passeur, c'est un très très grand pianiste de stride et magnifique pianiste. Voilà, et c'est ce concert-là qu'on a. Il est venu en 49 et il a été enregistré par André Francis. Et il est venu que deux fois en Europe et c'est tout à fait exceptionnel d'avoir ce pianiste-là. Vraiment tout à fait exceptionnel. Et là, vous voyez qu'on a quand même 21 faces de disque. On a restauré 21 faces de disque, ce qui est quand même assez énorme, qu'on a mis bout à bout pour reconstituer ce concert.
Chaque face dure 3-4 minutes. Donc, oui. Le technicien qui enregistrait dans la salle de concert, il a changé plus de 20 fois son support d'enregistrement.
Oui, absolument. C'est-à-dire qu'on gravit une face, ensuite sur l'autre machine, on gravait la deuxième face, on retournait le premier disque pour graver la face 3, et pendant que la face 3 se gravait, on retournait le deuxième disque pour graver la face 4. On fait les synchronisations et on monte tout ça. Et ça ne s'entend pas après.
Et après cette interprétation d'Echoes of Spring au charme schubertien, voici Fading Star.
On venait avec de très lourds et très encombrants graveurs de disques. Un disque 30 cm, ça faisait à peu près 4 minutes, 35 minutes. Il y avait deux graveurs l'un à côté de l'autre et il fallait passer par une espèce de déraillé particulier. On gravait un disque et puis un autre et puis un autre. Pour la diffusion, c'était la même chose, mais il fallait faire extrêmement attention de faire des marées. Le second disque à la fin du premier, en fonction de repères qui n'étaient que visuels, c'était pas toujours très bon.
Escalier. Hein. Alors, descendez un petit peu, descendez. Ça, en fait, c'était les cuisines à l'époque, les cuisines du bâtiment. C'est pour ça que les murs sont blancs, qu'il y a encore des carrelages blancs. Voilà. Donc, on arrive au moins deux. Coucou Christophe. Voici l'autre technicien de restauration, Christophe Jolibois. Et Jonathan Fitoussi, avec lesquels nous travaillons tous les jours pour restaurer tous les documents qu'on entend sur l'antenne.
Jonathan Fitoussi, oui. Qu'est-ce que c'est ces supports qu'on voit dans les étagères
là? Alors là, donc, c'est que des bandes. Donc on traite principalement deux styles de supports à la phonothèque. Donc on traite les disques 78 tours, qui sont des disques qui datent du début des années 30 jusqu'au milieu des années 50. Mais pour le jazz, je dirais qu'à 90%, on est sur des supports de bandes magnétiques. Donc les bandes datent vraiment du début des années 50 jusqu'à la fin des années 90. Donc à peu près pendant une période de 50 ans, on a des bandes magnétiques et parfois un petit peu de disques aussi 78 tours, qui sont des disques à gravure directe. Donc en fait, ce sont des supports, ce ne sont pas des disques pressés, ce sont vraiment des disques gravés, originaux. C'est-à-dire que c'était des disques qui arrivaient vierges en studio, c'est-à-dire vraiment lisses, sans sillon. Et ensuite, l'enregistrement était vraiment gravé sur le disque. Contrairement aux disques vinyle ou aux disques 78 tours, même qu'on peut encore trouver en brocante, qui sont des disques pressés. Il n'y a pas une matrice, c'est vraiment un document original. C'est un disque en métal, pas en plastique. C'est un disque avec une base en aluminium ou en zinc. Et avec un vernis noir qui ressemble effectivement d'apparence à un disque vinyle. Mais en fait, c'est un vernis noir qui est très très fin, sur lequel est gravé donc le signal. Dans le temps, c'est des supports qui vieillissent pas forcément très bien. C'est des disques assez robuste quoi, mais le problème c'est que la base étant en métal et le vernis dans une autre matière, avec les changements de température et autres, le vernis peut avoir tendance à craqueler, et on a vraiment ce vernis en fait qui se décolle de la base en métal, et sur les disques ça peut être assez violent, donc on a des grands blessés, ouais. On n'est pas des magiciens non plus, on peut pas non plus parfois le support fait que malheureusement c'est sans espoir. Non. Donc là on voit un disque, bon, il est plutôt en bon état, hein. Là où il y a le petit décrochement du vernis, on voit vraiment la base en métal, ici là. Je vais lire le support plusieurs fois, avec des pointes différentes, qui va me permettre en fait de vraiment nettoyer les sillons. Je vais pouvoir vraiment désencrasser le sillon. C'est un peu notre philosophie de l'équipe, c'est-à-dire vraiment faire un maximum sur la restauration physique des supports, et on amoindrit donc les traitements informatiques qu'on fera dans un second temps. Et ensuite, une fois qu'on aura numérisé le support, on va en générer donc deux exemplaires. On va générer d'abord un exemplaire de sauvegarde, qui est vraiment, en fait, un exemplaire de sauvegarde, c'est vraiment une transposition de l'analogique au numérique, c'est vraiment une copie droite, sans traitement. Et ensuite, on génère en complément un exemplaire de restauration, qui est donc vraiment, pour le coup, une interprétation personnelle, avec un traitement fréquentiel pour amoindrir les bruits des supports. Ce qu'il faut savoir, c'est que tous les disques qu'on a à la radio sont des disques en fait qui ont une taille de sillon. Donc la taille de gravure du sillon n'est pas la même que la taille des 78 tours qu'on peut trouver encore en brocante ou que les 33 tours, bien sûr, les vinyles, etc. Donc heureusement, en recherchant en fait dans les anciennes notices techniques des techniciens de gravure de l'époque, on a réussi à trouver la taille du sillon des disques donc qu'on a qui est aux alentours de 71 microns. Elle a été standardisée en fait sur l'ensemble. Elle est vraiment propre à notre fond, mais elle a été standardisée, elle a pas évolué, donc heureusement. Et les pointes en fait qu'on met sur les cellules pour lire le disque, en fait on se les fait tailler sur mesure par un petit artisan anglais, un vieux monsieur, pour optimiser la lecture des disques de notre fond, quoi. Donc là, c'est avant, on entend vraiment les bruits de surface. Voilà, après quelques traitements un peu superficiels en live. Et on revient avant. Alors voilà, le travail ne s'arrêtera bien sûr pas là. C'est vraiment un avant-après comme ça pour se donner une petite idée de ce qu'on peut faire, de ce qu'on pourra faire. Donc là, ça s'annonce plutôt pas mal. Le support est plutôt propre, en bon état en tout cas. Il va pouvoir supporter quelques lectures successives. Il va demander encore un bon nettoyage avec de l'eau distillée et un peu de savon avec des pinceaux pour vraiment lui redonner sa couleur d'origine. Et on a vu comme ça, en appliquant quelques traitements avec des réglages un peu grossiers, hein, je précise, qu'on arrivait déjà quand même à enlever pas mal les bruits causés par le support, tous ces craquements et ces résidus. En faisant un travail plus de précision, on arrivera à un résultat vraiment très satisfaisant pour une diffusion d'un disque comme celui-là, quoi.
Alors, tout à l'heure, vous avez évoqué une archive, je serais très curieuse d'entendre. C'est un concert de Louis Armstrong à la salle Pleyel en 1946.
46 ou 48, on va vérifier. Déjà, les matériels originaux, les disques originaux, ce sont des F, c'est-à-dire des Philips Miller. Ce sont des disques qui sont inflammables. On en a très peu aujourd'hui, on les a tous recopiés quand on les a retrouvés en magasin. On en a gardé quelques-uns pour l'histoire dans des armoires faites à cet effet, parce que de temps en temps, ils s'enflamment. La radio a fait une première copie dans les années 60. Et puis nous, on a repris, puisque le Philips Miller n'existe plus, on est reparti de cette première copie des années 60, qui est une magnétique, une bande magnétique, qui du coup est devenue un original, puisque le disque a disparu. Et on a fait la restauration de sur cette banque LO, qui était assez en mauvais état. Enfin, le son était pourri, parce que les disques au départ étaient quand même assez mauvais.
Enregistré le 2 mars 1948, disque 78 tours restauré.
Louis Armstrong était avec Velma Middleton, qui était sa chanteuse, Barney Bigard à la clarinette, Jack Teagarden au trombone, donc il y avait même Earl Hines au piano. Et on a quand même très très peu de concerts à la salle Pleyel. La radio allait de temps en temps enregistrer là-bas. On n'en a pas beaucoup. Donc c'est quand même en 48, c'est assez exceptionnel ça aussi. Parce que la radio avait un contrat avec le Théâtre des Champs-Élysées. Mais la salle Pleyel, c'était moins fréquent. Alors, si je fais avant 1950. Voilà, il y a 110 documents. Par exemple, une interview de Ray Ventura en 1945 qui parle de leur tournée au Brésil avec Paul Misraki et Henri Salvador. Ils ont rencontré aussi Orson Welles et Bing Crosby. Il y a la formation de Robert Vannunzi, qui est vraiment une formation qui jouait du New Orleans, qui était une formation qui a beaucoup, beaucoup joué à Paris. Il y a une émission qui est un quart d'heure de piano jazz avec Charles Henry. Déjà, à l'époque, on faisait venir des musiciens à la radio pour les enregistrer en studio. Il n'y avait pas que des reportages à l'extérieur. Il y a toutes les émissions de Hugues Panassier qui sont à base de disques du commerce, mais qui vraiment expliquent cette passion de tous ces gens pour le jazz, parce que lui, il a fait cette émission à partir de 47 jusque dans les années 50, toutes les semaines, où il prenait un grand musicien de jazz américain et il rendait hommage à ce musicien pendant ses émissions. Évidemment, il y a Sidney Bechet, il y a Boris Vian qui a été interviewé plusieurs fois forcément dans ses caves de jazz. On l'entend jouer, on l'entend parler. Et dès 1946, André Francis à la radio, il a eu les moyens techniques d'aller enregistrer avec les autres producteurs, d'aller faire des reportages et d'enregistrer de la musique.
Reportage au club Le Tabou, enregistré le 1er janvier 1947. Support,
Disque 78 tours, restauré.
Yves Deniau, qui était venu pour faire un reportage, a donc simplement clôturé la série des attractions. Je vais cependant essayer de le rejoindre, ce qui n'est pas commode car le tabou est installé dans une cave, une espèce de cave allongée, un tunnel dans lequel s'entasse une foule extraordinaire. Il y a beaucoup de jeunes gens, bien entendu, mais il y a aussi des visiteurs, des gens venus de toutes les parties du monde pour voir ce qu'est ce fameux tabou dont on a parlé comme d'un bar existentialiste, simplement parce qu'un soir Sartre y était venu. Mais c'est simplement un dancing d'étudiants où l'on fait du très bon jazz. À noter qu'il y a un piano bien curieux. Au moment où Jimmy Davis chantait tout à l'heure en s'accompagnant lui-même, il y avait près de lui l'un des habitués de la maison, tout occupé à décoller les marteaux des notes qui, à chaque note, se collaient aux cordes. Je n'ai pas besoin de vous dire qu'on est ici très gai, vous l'avez entendu. On y accueille tous les poètes, musiciens, chanteurs qui veulent faire entendre leurs œuvres, et c'est souvent un mélange inouï de débutants et de grandes vedettes qui ne dédaignent pas de venir sur la petite scène. L'autre soir, Trenet était là, cette petite scène vers laquelle je me dirige actuellement et qui est au fond du tunnel. Heureusement du reste que le tabou est un club où l'on n'accueille pas tout le monde, sans quoi il serait impossible d'y bouger. Déjà, ça n'est pas si commode. Ah.
Voici maintenant l'orchestre de Boris Vian avec Guy Montassu.
Il y avait énormément de clubs et de cabarets à l'époque à Paris. Il n'y avait pas seulement les cabarets où chantait Jacques Brel, Brassens, etc. Il y avait beaucoup de cabarets où ils diffusaient du jazz. Beaucoup, beaucoup.
4, 3, 2, 1, 0.
Ouverture du club Metro Jazz, enregistré le 9 octobre 1952. Support disque 78 tours.
Charles Delaunay, l'actif président du Yacht Club de Paris, qui est à mes côtés, va nous dire brièvement de quoi il s'agit.
Eh bien, il s'agit de l'ouverture du Metro Jazz, qui est une nouvelle cave du quartier latin, dans laquelle se produiront dorénavant de nombreux musiciens, aussi bien américains que français.
4, 3, 2, 1.
Qu'est-ce qu'on a 0. Comme nom, par exemple, de cabaret de jazz à l'époque?
Il y avait les Trois Maillets, il y avait le Schubert, qui était aussi un cabaret de variété, parce que souvent, le jazz et la variété étaient mêlés, parce qu'il y avait beaucoup de détracteurs de cette musique au début, qui considéraient que le jazz était une musique tout à fait légère et une musique de variété. Et d'ailleurs, dans l'émission de Jack Dieval, qui s'appelle « Jazz aux Champs-Élysées », il mêle tout à fait à la fois la variété et le jazz. Donc il y a des super musiciens qui jouaient dans cette émission avec des orchestres de variété. Donc les cabarets faisaient ou l'un ou l'autre. Et puis beaucoup étaient évidemment à Saint-Germain.
Je voudrais demander à Boris Vian, qui est spécialiste des révolutions en matière musicale, de nous dire pourquoi, enfin dans quel élan et de quelle manière il a pu réussir à composer cette chose magistrale, ce genre de symphonie à la gloire des légumes que nous venons d'entendre ce soir.
C'est dans l'espoir lointain d'avoir un jour le mérite agricole.
Ah, ça je m'en doutais.
Je crois que c'est la seule décoration qu'on ne me refusera pas. Pour le mérite agricole, j'ai l'impression là que j'ai fait un grand pas en avant.
Au club Le Tabou, la danse poire aux pommes de terre, 1947.
Ah ça, je pense que vous avez chanté la louange de l'agriculture française d'une manière qui fera qu'elle ne manquera plus de bras, en tout cas plus de jambes, car il y avait ce soir les plus jolies jambes de Paris, puisque tous les mannequins étaient là ou étaient représentés.
Ah, si toutes les chansons que je fais avaient cet aboutissement, je crois qu'on ferait encore beaucoup plus.
Si ce sont des chansons pour être dansées, naturellement, ça a cet aboutissement. Merci Boris Vian.
Trois, deux, un, zéro.
Au club Metro Jazz, la chanteuse Lil Armstrong.
Now I'm mighty like a rose, all dressed up in fancy clothes. I'm just another brown girl who's so full of sin. Well, here's the fix that I'm left in. I'm just a brown girl. A brown girl making my life just a bubble, not even taking the trouble to ever blow the bubbles away. Brown girl.
Il y avait le Club Saint-Germain,
with good
la Cigale, le Vieux Colombier, le métro jazz. Il y avait le caveau de la Huchette, le chat qui pêche, le Blue Note, plus tard dans les années 50, etc. C'était les vraies caves, comme on peut voir au caveau de la Huchette encore aujourd'hui, avec les souterrains, les grilles, qui étaient en fait à l'époque les prisons de la conciergerie. Des caves magnifiques, comme on peut les connaître, tout en pierre, très humides aussi.
Sidney Bechet ouvre son cabaret, rue Pierre-Charron, 67 rue Pierre-Charron, à l'emplacement de l'ancien Mexico. Ça s'appelait le Mexico, n'est-ce pas ?
Oui, c'est ça.
Enregistré le 30 décembre 1953. Disque 78 tours.
Alors, Sidney Bechet, quels sont vos projets ? Qu'est-ce que vous voulez faire entendre et faire goûter aux Parisiens ?
Oh, vous avez des bons jazz. Je veux les faire écouter des bons jazz et amuser très bien chez nous ici.
Merci. Mais dites-moi, je vais vous poser une petite question. Comment se fait-il que vous parliez français avec tant de naturel et un accent, somme toute, qui n'est pas l'accent anglo-saxon ?
Oh, vous savez, moi, je suis né au Nouvelle-Orléans.
Ah, comprenez ? C'est ça.
Et puis encore, on a beaucoup de Français qui sont encore là maintenant.
C'est
ça. On parle seulement français là-bas.
On parlait français dans votre famille ?
C'est ça, oui.
D'ailleurs, le nom Bechet est tout à fait d'origine française.
On parle français et créole aussi.
Il faut donc le prononcer Bechet et non pas Bechet, comme
non,
c'est un
non,
génie à dire
et
certains.
Et pas Beckett non plus.
Et pas Beckett non plus. Bon. Merci Sidney. Alors maintenant, je vais demander à Monsieur Manès, qui est déjà le directeur d'un autre temple du jazz, les Trois Maillets, le Métro Jazz.
Tout le monde, Sidney Bechet, Boris Vian, Mesmerot, tous les gens qui passaient dans ces clubs, hop, on allait les interviewer, on faisait un reportage, on enregistrait quelques minutes de ceux qui jouaient en fond sonore, on faisait des interviews. Il y a une archive vidéo absolument magnifique avec Barney Whelan, très très jeune, qui joue avec Bud Powell, et c'est Sim Coppens qui les interviewe au début. On a vraiment des archives télé et radio magnifiques sur ce qui se passait, sur la vie nocturne de ces caves et de ce quartier de Saint-Germain-des-Prés. Et ce qu'on a à la radio est vraiment représentatif de cette vie-là, à cette époque-là.
Jazz aux Champs-Élysées, présenté par Jacques Dieval, enregistré le 20 novembre 1956.
Voici le grand saxophoniste ténor, Lester Young. Lester Young, Lester Young, bravo, bravo.
Support, bande magnétique. C'était le jazz, une aventure radiophonique. Première partie, les pionniers des années 40. Avec Annie Lozana, André Francis, Jonathan Fitoussi et les archives du fonds INA Jazz. Attachés d'émission Christine Bernard et Alison Sinard. Coordination Irène Omelianenko. Prise de son Jean-Pierre Pernel. Mixage Claire Levasseur. Un documentaire d'Élise Gruau, réalisé par Christine Robert pour Sur les Docs.
Et vous retrouverez la deuxième partie de ce documentaire demain à partir de 17h.